Alors, donc là actuellement nous sommes dans les parashiot. Shabbat dernier c'était l'Er Lecha, Shabbat prochain c'est Vayera. Et bon, on commence l'année, et on commence l'année avec Avraham Avinu sur plusieurs parashiot. Et les versets qui parlent d'Avraham Avinu sont tellement fondamentaux que souvent je les reprends en cours. C'est vraiment le début, le balbutiement des fondamentaux de la vie juive. Et on va voir donc quelques versets relatifs à Avraham, avec des rachis aussi très importants. Alors il est possible pour ceux qui redoublent que vous étiez déjà à certaines séances sur ces sujets. Donc c'est la fin de Parashat Noach, à la fin de la Parashat Noach. Donc chapitre Yud Aleph, verset Kava, verset 26. Donc, merci. Donc ça, je vous passe les premières feuilles, ça c'est les deuxièmes feuilles. Alors, les versets nous disent qu'il y a 10 générations. Génération entre Noah et Avraham. J'ai pris Avraham, on va voir pourquoi. Donc il y a 10 générations et la Torah nous fait donc les détails des générations. Un tel Noé a eu tel enfant, qui a eu tel enfant, qui a vécu telle année, qui ensuite à tel âge a eu tel enfant, etc., etc. Alors, la neuvième génération, plutôt la huitième génération, regardez, Kavdalet peut-être. Kavdalet, Vayochi Nahor, donc là en vérité c'est la descendance de Shem. Descendance de Shem en français, Sem, hein, puisque Noé a eu trois fils, Shem, Ham et Yafet. Verset Kavdalet. Vayochi Nahor Tesha Vesrim Shana Vayoled et Terach. Et Tarach. Nahor vécut 29 ans et il enfanta Terach. Vayochi Nahor Ahare Olido et Terar, Tesha Esreshana, Umead Shana, Vayoled Banibubanot. Nahor vécut après avoir enfanté Terar 119 ans, et il mit au monde des garçons et des filles. Alors pourquoi on nous met en exergue Nahor? On nous met en exergue Terar, parce que Terar, c'est le père d'Abraham. Ce qu'on veut, c'est dire les ascendants d'Abraham. Vayochi Terar Shivim Shana, Vayoled et Avram, et Nahor vet Aram. Terar, Shulaim. Terar vécu 70 ans. Il mit au monde Avram, Nahor et Aram. Donc, Terar vécut 70 ans, il mit au monde Avram, Nahor et Aram. Bien. Là, au départ, on l'appelle Avram. Ça sera bien plus tard, ça sera à 99 ans que Dieu l'appellera Avraham. Mais pendant 99 ans, il est appelé Avram. Ve'ele toldot Terar. Terar olid et Avram, et Nahor, vet Aran, ve'Aran olid et Lot. Voilà les engendrements de Terar. Terar mit au monde Avram, Nahor et Haran mit au monde Lot. Lot, c'est le premier compagnon fidèle d'Abraham, qui en vérité, Lot est le neveu d'Abraham. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous levez le doigt comme à l'école.
Monsieur, je n'ai pas compris.
Voilà. Et Haran mit au monde Lot. Donc j'écris
pour que ça soit bien clair. Terar mit au monde Abraham. Pardon. Abraham.
Nahor.
Et Haran. Et Haran met au monde Lot. Ok ? Bien.
Avant de continuer, qu'est-ce que la Torah va nous dire en premier de ce qu'a fait Abraham ? Bon, on voit, il naît. Mais quelle première chose la Torah va nous dire qu'Abraham fait dans le texte de la Torah ?
Il se marie avec Sarah.
T'étais déjà une séance. C'est vrai.
Ouais. C'est la première chose qu'il dit sur
Dieu. On va voir. Parce que si on demandait, en général, avant de faire le texte, quelle est la première chose qu'Abraham a faite ? On répondrait sans voir le texte, on dirait quoi ?
Parce qu'il a fait par rapport à son frère.
Comment ?
Il a cassé les idoles.
Qui a dit qu'il a cassé les idoles ? Oui, cassé les idoles. A priori, quand on s'imagine Abraham, les personnes qui viennent arriver, Jean-Yves Monte, tu veux un texte ? Il y a des textes qui traînent là, non ? Ok. Non, prends. Ah, tu as ? C'est bon. Okay. Tenez.
On va passer à la feuille d'après.
Okay. Merci.
Bien. Alors, en général, on demande, qu'est-ce qu'il a fait ? Première chose qu'a faite Abraham ? Il a cassé les idoles de son père. Et on va voir dans le texte de la Torah écrite, c'est pas écrit. C'est ce que nous allons voir. C'est connu qu'Abraham a cassé les idoles de son père. Vous avez déjà entendu, hein, n'est-ce pas, hein, voilà. Abraham a cassé les idoles de son père. Mais dans le texte, il y a deux choses. Il y a un texte du Chumash, le Chumash, la Torah écrite. Mais nous avons, parallèlement à la Torah écrite, ou en symbiose avec la Torah écrite, la tradition orale. Qu'Abraham ait cassé les idoles de son père et qu'il était jeté dans la fournaise par Némrod, c'est pas écrit dans la Torah. Quand en vérité, ça aurait été important quand même de nous le dire. Comment ça se fait que Abraham nous le dit, que la Torah nous le dit pas ? On va voir ça. Continuons. Verset 28, verset Kafret. Vayamot Haran alpene Terar Aviv, Be'eretz Molato, Be'or Kazdim. Haran, donc le troisième frère, mourut au visage de Terar, son père, dans sa terre natale à Ur en Chaldée. Voilà. Ur, c'est un endroit qui existe toujours, Ur. Hein, lorsqu'il y a eu la première guerre du Golfe en 1991, quand les Américains ils ont envoyé des, ils ont fait des bombardements en Irak, eh bien Saddam Hussein avait mis beaucoup de tout un arsenal dans les ruines de Ur au sud de l'Irak. Parce que comme il savait que les Américains, ils n'allaient pas bombarder les ruines qui restaient de l'époque d'Abraham. Donc ils pouvaient planquer tranquillos leur truc là-bas. Donc ça existe toujours, les ruines de Ur, c'est ça qui est écrit, Ur en Chaldée, dans le sud de l'Irak. Voilà. Donc Aram mourut au visage de Terar, son père, on verra le commentaire de Rashi là-dessus, dans sa terre natale à Ur en Chaldée. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il mourut au visage de son père. Nous verrons Rashi. Vaikar Avram venachor lahem nashim. Shem eshet Avram Sarai. Veshem eshet Nachor Milka. Bataran Avi Milka Vavi Iska. Avram et Nachor prirent femme. Le nom de la femme d'Avram, c'est Sarai. Elle s'appelait encore pas Sarah. C'est plus tard qu'elle s'appellera Sarah, que Dieu dira que son nom c'est Sarah et pas Sarai. Donc, ils prirent femme. Le nom de la femme d'Abraham, c'est Sarai. Et le nom de la femme de Nahor, c'est Milka. Ce n'est pas elle qui a inventé le chocolat au lait. Non. Hein, Milka, ça veut dire aussi Malka, hein, c'est aussi reine. Comme Sarai veut dire princesse, Milka veut dire reine. Milka, qui était la fille d'Aram, la fille de son défunt frère, bat Aram. Aram, qui est le père de Milka, on vient de le dire, est le père de Iska. C'est qui Iska? Alors Rashi va nous dire, c'est un autre nom de Sarah, un autre nom de Sarai. Bien. Donc, ce que Odile vient de nous faire remarquer. La première chose que la Torah nous dit au sujet d'Abraham, c'est que Abraham prit femme et aussi Nahor prit et son frère aussi. Le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch relève que le singulier montre que l'action première c'est Abraham et ensuite c'est Nahor qui est. Voilà. C'est un singulier. Vaïkar, Avram et Nahor prient. C'est
Avram, regardez, si on traduit bien, c'est sûr que vous avez la traduction en français, mais si on traduit bien Avram et Nahor prient femme. Il y a un problème, non? Je ne sais pas s'il y a des profs de français parmi vous, des professeurs des collèges, moins un. Là, il faut accorder le verbe.
Oui, il n'y a pas plus rien.
Hein? L'auteur, il n'a pas accordé. Il n'a pas accordé. Moins un. Ce qui nous fait entendre qu'en vérité, c'est Abraham prit femme et ensuite, Nahor prit femme.
Dans la traduction qui est mise là, ils ont conjugué.
Comment?
Dans la traduction.
Oui, c'est sûr, il faut une traduction. Mais si, nous, si vous voulez, je vous ai photocopié la traduction pour que vous ne soyez pas perdus. Mais oui. Si on fait la traduction mot à mot, on fait la traduction mot à mot, c'est un singulier. D'accord? Bien. Alors, on va regarder le commentaire du Rashi sur le verset 28. Bien. Alors, pour les personnes qui ne sont pas habituées, je vous passe un texte. Bien. Oui. Oui, c'est une question importante. Je ne sais pas si on pourra répondre. Ce n'est pas le cœur du sujet, mais c'est très important. Peut-être que si on... Regardez, là, on commence à faire ce passage qui est vraiment fondateur. je ne sais pas si je pense que Abraham passera en seconde semaine. Hein. Je vais chercher des textes parce que une seconde. Ok. Alors, je reprends. Le verset dit, voilà les engendrements de Terar. Terar mis au monde Avram, Nahor et Haran. Haran mis au monde Lot. Verset 28. Vayamot Haran alpene Terar aviv. Haran mourut au visage de Terar, son père, dans sa terre natale à Ur, en Chaldée. Commentaire de Rashi. Alors, Rashi, je veux introduire, dans l'édition classique de la Torah que nous avons là dans les mains, on a systématiquement le commentaire de Rashi. Donc Rashi, il a vécu le 11e siècle, comme on dit. Hein, il est mort à la fin du 11e siècle. Il est contemporain des premières... À la fin de sa vie, il y a eu les premières croisades dans la vallée du Rhin. Et il était à Troyes, mais sa famille venait de la vallée du Rhin. Sa famille venait de Mayence, de Worms, dans la vallée du Rhin. Bon. Rashi, pourquoi on dit toujours Rashi? Parce que Rashi a des qualités innombrables. Une des qualités de Rashi, c'est qu'en quelques mots, il synthétise la tradition orale. Il nous met tout de suite dans la problématique de la tradition orale. On a le texte écrit du Chumash. Moi, je dirais une petite boutade. Il transforme la Bible en Torah. La Bible, c'est un texte, bon, il est mis au monde, Haran, machin, style, on n'en a rien à foutre, quoi. Tout de suite, il nous rapporte le Talmud ou le Midrash qui nous explique une problématique, un problème, et qui va faire que cette problématique, en vérité, est une problématique qui peut être la nôtre. C'est ça la tradition orale qui va faire que c'est nos problématiques. Bien que ce texte soit intemporel, multimillénaire, je ne sais pas, mais il va tout de suite rentrer par la tradition orale dans nos problématiques à nous. C'est ce qu'on pourrait dire, la tradition orale. Qu'est-ce que la tradition orale? Ça s'appelle, en hébreu, Torah Shebealpé. C'est quoi la Torah Shebealpé? La Torah qui est sur la bouche, c'est-à-dire sur notre bouche. On pourra, nous, aujourd'hui, qui que nous soyons, parler de cette Torah, faire que cette Torah, c'est notre Torah. Alors regardons le commentaire de Rashi, aussi autre point très important, qui veut rendre compte des nuances du texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Haran mourut au visage de son père. Comment c'est traduit chez vous là en français?
En présence.
Comment?
En présence,
ça peut être. Commentaire de Rashi. Alors évidemment, le commentaire de Rashi a aussi un autre avantage, c'est qu'en caractère Rashi. Verset 28. Alpene terar aviv, au visage, première explication, berhaye aviv, du vivant de son père. Donc, au visage, donc ce n'est pas tant en présence de son père que au visage, c'est-à-dire quand il y avait encore le visage de son père, du vivant de son père. Donc, Rashi a un souci de rendre la cohérence du texte. Midrash Agada, mais le Midrash nous explique. Yeshomrim al yede aviv met. C'est à cause de son père qu'il est mort. Al pene aviv, c'est du vivant de son père.
Chez Al-Yedé Aviv Metz, c'est par le biais de son père qu'il est mort. C'est à cause de son père qu'il est mort. Chez Kibel Terar al-Avram Beno, Lifne Nemrod al-Shekitet et Tselamav. Parce que Terar s'est plaint au sujet d'Avram, son fils, devant Nemrod, sur le fait qu'il avait cassé ses idoles. Alors, le Midrash, c'est un livre qui s'appelle le Midrash Rabbah. C'est un livre parallèle au Talmud. Midrash Rabbah, un livre parallèle au Talmud, qui rapporte des explications qui ne se trouvent pas dans le Talmud stricto sensu, mais ça a la même force de sainteté que le Talmud. Le Midrash Rabbah rapporte. Rashi est très concis, je vous le dis de manière plus lointaine, plus développée, que Avram était enfant et il se posait des questions. Il dit, à son époque, tout le monde servait des dieux multiples et divers. Ils avaient plein de dieux. Il y avait le dieu du soleil, il y avait le soleil, il y avait la lune, il y avait la grêle, il y avait les océans, il y avait le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, le dieu du machin, un peu comme ça se passe en Inde aujourd'hui. Les gens, par exemple, ils avaient un entretien d'embauche dans une start-up. Alors avant, ils allaient mettre de l'encens au dieu du business. Oh, dieu du business. Oui, ils prennent une chèvre, ils égorgent une chèvre. Voilà, est-ce que tu es content? Oh, dieu du business. Voilà. Ensuite, on va leur proposer de rencontrer un jeune homme, une jeune fille, une offrande de mangue bien mûre au dieu de l'amour, etc. Ça se fait encore dans certains pays. Hein. Bien. Alors, c'était comme ça. Tout le monde, c'était comme ça. Abraham, il disait... Ça tourne le pinet, toute cette histoire. Je comprends pas. Le dieu du soleil, mais la nuit, il n'y a pas le soleil. Ensuite, la nuit, le dieu de la lune. Et le jour, il n'y a pas la lune. Dans son pays, le dieu, c'était le feu. Mais l'eau est un... glace. Il se posait plein de questions. Il a dit, il y a un truc. Il y a un truc derrière. Il y a un truc. Ça ne va pas tout ça. Ça ne va pas. Et son père, manque de peau, c'était un fabricant d'idoles. Il fabriquait des statues. Donc c'était à la demande. Il voulait une statue du dieu de la guerre. Il faisait une statue effrayante. Etc. Voilà. Et il y avait une grande fête d'idolâtrie. Abraham, il a dit, je ne me sens pas bien, je reste à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé toutes les statues, sauf la plus grande statue. Et le maillet avec lequel il a cassé les idoles, il a mis dans les bras de la plus grande statue. C'est le Midrash, hein, vraiment mot à mot, c'est le Midrash. Papa, maman rentrent. Et mais qu'est-ce qui s'est passé, Abraham, dans l'atelier? C'est une catastrophe. Tout mon travail depuis des mois qui est en poussière, machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il dit, chacun, il se disputait, c'est moi le plus grand Dieu, c'est moi le plus grand Dieu, c'est moi le plus grand Dieu. Le plus grand, il a pris le maillet, il les a tous fracassés. Alors, et alors, le papa a dit, attends, qu'est-ce que tu penses? C'est moi qui les ai fabriqués. Il a dit, écoute papa ce que tu es en train de dire. Il a dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Et il prend son fils, il l'amène chez Nemrod. Nemrod, je ne peux pas tenir cet enfant. Qu'est-ce que je vais faire? Et Nemrod lui dit, voilà, c'est quoi ton histoire? Il a dit, non, j'ai réfléchi, c'est pas le dieu du soleil, c'est pas la lune, c'est pas les étoiles. Il y a une force supérieure. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre dieu ici, c'est le feu. S'il y a quelque chose comme tu dis, qu'il te sauve. Il l'a pris, il l'a jeté dans le feu. La fournaise ardente. Il a dit, Abraham, est-ce que tu es d'accord ou non? Il dit oui, paf. Et il y avait Aram, le frère, il était là. C'est chaud, c'est comme dire. Chaud bouillant. Aram, il a dit, ça c'est Rachid, on va voir dans Rachid. Aram, il se disait, si Abraham gagne, je suis avec Abraham. Si c'est Nemrod qui gagne, je suis avec Nemrod. Abraham s'en est sorti indemne. Ils ont demandé à Aram, et toi ? Il dit, moi je suis avec Abraham. Ils ont pris Aram, ils l'ont jeté dans le feu, et il est mort consumé. C'est ça ce que le verset dit, il est mort alpené à vivre devant son père, à cause de son père. Et Our Kasdim, qu'est-ce que ça veut dire Our? Rachidi veut dire Our, c'est des brasiers. Our, or, avec un cholam, c'est la lumière, mais Our, avec un chourouk, c'est le brasier. Donc il est mort, mais Our, à Ur, qui veut dire le brasier.
Et chez Raïédé, c'est des mains, c'est comme ça que vous avez dit ?
Par le biais. Par le biais.
Il n'y a pas ça rien à voir avec les mains.
Non, c'est une expression hébraïque. Aliédé, ça veut dire par le biais. Alors, regardez. Ici, il y a plein de questions. Plein de questions. Comment peut-on dire que c'est à cause de son père qu'il est mort ? C'est à cause de Némrod qu'il est mort. C'est pas à cause de Terar qu'il est mort. Terar, il amène son fils devant Nemrod. Ok. Mais Abraham, il s'en sort. L'autre lui demande, qu'est-ce que tu penses ? Et il dit, bon, il a vu qu'Abraham, il s'en est sorti. Je suis avec Abraham. Tac, il est mort. Mais ce n'est pas à cause de son père. Mais la question fondamentale, pourquoi le texte de la Torah ne dit-elle pas explicitement cette histoire ô combien biblique que je vous racontasse. Quand même, c'était joli, vous étiez là. Ah, encore Alain Decaux. Ouais. Raconte-nous des histoires, Père Castor. C'était une belle histoire. Et cette histoire qu'Abraham était prêt à assumer la mort, pour défendre la vérité. Et qu'il en est sorti de manière miraculeuse. Quand même, toute littérature religieuse
c'est un miracle.
Toute littérature religieuse, gloire à nos martyrs. Gloire aux martyrs de la foi. Gloire à nos martyrs, quand même. Abraham, il a failli être martyr. Gloire à nos martyrs, non ? On n'est pas d'accord quand même.
Bah, c'est peut-être justement pour ça qu'ils l'ont sévalisé, en fait.
Pourquoi là, c'est quand même important, non ? Qu'Abraham, c'est en passant, ça veut dire. Rachid nous dit ça en passant, ça veut dire. Oui, pour rendre compte du verset qui dit. Alpené à vivre du vivant de son père. Qu'est-ce que c'est du vivant de son père? Alpené à vivre au visage de son père. Au visage de son père. Par le biais de son père. On apprend toute cette histoire. Mais dis-le explicitement. Et qu'est-ce que le texte il dit explicitement? Qu'Abraham il s'est marié. Le texte lui-même, le texte, qu'est-ce qu'il dit? Abraham il s'est marié. C'est bizarre, non? Les gens qui disent c'est bien votre cours, quand on part, on a plus de questions qu'en arrivant. C'est bizarre, non? Comment ça se fait?
Ça prouve qu'il n'était pas mort, si c'est marié.
Mais ça, c'était avant. Non, c'est après. Évidemment, il n'est pas mort, sinon il n'y aurait pas toute l'histoire d'Abraham.
Bah, moi, je crois que c'est comme tu as dit, c'est que ce n'est pas à mettre non plus entre toutes les mains, quand même, ce type de d'acte un peu de bravoure, martyr, tout ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément... là, c'est bien pour Abraham, mais peut-être c'est pas trop de parquet, je sais pas.
Alors, regarde, on va aller dans ce sens que ici, qu'est-ce qui est fondateur chez Abraham ? Qu'est-ce qui est fondateur ? Moi, j'expliquerai comme ça. L'idolâtrie, on pourrait dire comme ça, l'antisémitisme, les persécutions. Ce n'est pas notre problème, c'est le problème de ceux qui le font. On ne va pas se définir par des gens qui nous persécutent. C'est vrai qu'il y a des persécutions. Il y a des persécutions. Mais on ne se construit pas par des persécutions. Les persécutions, l'antisémitisme, n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème des antisémites. Ça veut dire, nous on vit notre vie, il y a des gens, ils ne sont pas contents. C'est leur problème dans une certaine mesure.
Oui, dans une certaine mesure, parce qu'au bout d'un moment, on ne la vit plus avec les antisémites.
C'est vrai. Mais disons, on ne va pas... Imaginons, on va faire une grille de programme pédagogique. Par exemple, l'année juive. T'as toutes les semaines, tu as la plus grande fête. Ouais. C'est Shabbat. Ensuite, tu as d'autres fêtes de temps en temps, et une fois par an, tant que le Beit HaMikdash n'est pas reconstruit, tu as Tisha B'Av. Dire, bon, c'est pas beaucoup quand même pour célébrer les persécutions, les malheurs, les trucs. Peut-être ça suffit. Ok, c'est important, mais peut-être une fois par an, ou trois semaines. Il y a trois semaines entre le 17 Tammuz, ok, il y a trois semaines. Ça veut pas dire que c'est pas. C'est important, mais disons, on va pas construire notre vie là-dessus. Il faut prendre acte. Mais peut-être aussi, j'aimerais expliquer comme ça, que ici, ça vient nous expliquer qui c'est Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham, vous avez déjà entendu parler que Abraham, c'est la découverte du monothéisme. Vous avez déjà entendu ça, hein ? Oh, c'est un truc, hein, j'ai vu ça à la télé. Une fois, Abraham, le monothéisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire monothéisme par rapport à l'idolâtrie ? C'est quoi l'idolâtrie ? Maïmonide explique au début des lois relatives à la Avodah Zara, relatives à l'idolâtrie, que les idolâtres anciens ne niaient pas qu'il y avait un Dieu créateur. Maïmonide explique, mais ils ont pensé que puisque ce monde... Il y a des forces tellement prodigieuses dans ce monde, des forces tellement glorieuses dans ce monde, qu'ils ont pensé que le Dieu créateur a délégué sa gloire aux puissances qu'il a créées. Par exemple, les marins, moi je ne suis pas marin, mais j'ai lu un petit peu, j'ai vu que les marins, ils sont complètement addicts à la mer. Il paraît que la mer, traverser les océans, c'est une expérience incroyable. Tu as une puissance dans les océans qui s'exprime, une puissance incroyable. Tu as des tempêtes, même les accalmies sont terribles. Ensuite, tu as encore des bourrasques, des trucs, tu as des forces invraisemblables, des énergies incroyables. Ils ont pensé que ces énergies incroyables, même la guerre, le dieu de la guerre, quand les gens ils sont à la guerre, c'est des gens différents. La guerre, il se passe des choses qu'en temps de paix, il ne se passe pas. La guerre est un déferlement d'énergie, de puissance. Tu as des gens médiocres, tu les mets à la guerre, ils deviennent des héros, certains. Ils deviennent des gens qui se transcendent par la guerre. Donc il y en a qui pensent qu'il y a des puissances dans le monde. Et ces puissances, c'est tellement glorieuse que le Créateur a délégué la conduite du monde à ces puissances incroyables. Ça veut dire que le Dieu Créateur n'a plus de lien avec la création dans laquelle nous sommes. Les commentateurs prouvent, par toutes ces années qui sont passées, que Abraham avait 48 ans à la tour de Babel. Quand il y a la tour de Babel, construite par Nemrod, justement, Abraham n'était pas enfant. Il était adulte à l'époque de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est la civilisation. C'est la première volonté de construire une civilisation. Dans la civilisation, les individus sont broyés. Tout à l'heure, moi j'habite dans le 20e, là-bas, et ma vie est extrêmement intéressante. Non, j'ai une vie vraiment... C'est très, très rock'n'roll, ma vie. Je prends le bus 26 de mon appartement, dans le 20e, pour aller à la yeshiva, dans le 19e, et je reprends le 26 pour retourner chez moi. Ensuite, je reprends le 26 pour aller à la yeshiva. Ensuite, je reprends le 26 pour rentrer à la maison. C'est très intéressant. Et là, c'est vraiment hyper intéressant. Et là, j'avais une course à faire là, à 18h, rue de Rivoli. Ensuite, je suis allé à la station Saint-Lazare. C'est la tour de Babel. T'as un monde fou, du monde entier qui arrive. C'est un truc de ouf. Sur 5 mètres cubes, t'as des gens du monde entier qui arrivent. Et tous les gens, ils reviennent du boulot, et machin, ils repartent. C'est des trucs incroyables. Mais quelqu'un là-dedans, il se dit, mais tu sens, qu'est-ce que tu es là-dedans? Qu'est-ce que tu existes là-dedans? Tu rentres chez toi, tu vas regarder la télé, la série sur Netflix. Ça veut dire, est-ce que j'existe, est-ce que j'existe pas? Bon, les gens, ils ont besoin de partager leur vie avec quelqu'un, mais se marier, est-ce que ça a un sens de se marier? Est-ce que ça a un sens de se marier? Qu'est-ce que vous en dites? Ça a un sens ou ça n'a pas un sens?
Dans quel sens?
Je sais pas, c'est absurde, non, de se marier, c'est-à-dire se lier avec quelqu'un. Bon, grâce à Dieu, il y a le divorce. C'est comme il y a 4 ans, 5 ans, là, au début de l'ère de François Hollande, ils ont inventé un truc, le mariage pour tous. Bon, grâce à Dieu, ça donnait le divorce pour tous. Non, ça veut dire, si j'imagine qu'il y a des gens qui sont mariés grâce au mariage pour tous, quelques années après, ils ont divorcé, mais... Imaginez un mariage, sur la base d'un mariage. C'est que ils vont vivre ensemble. Si tu te maries, c'est un engagement. Tu ne vas pas te marier et que tu te dis, bon, ok, 5 ans après, on se retourne à Las Vegas et on... Il paraît qu'à Las Vegas, tu te maries en 20 minutes et tu divorces aussi en 20 minutes. Mais à part Las Vegas, un mariage, c'est que tu t'engages avec quelqu'un. J'ai entendu une explication très intéressante de Boris Cyrulnik, qui explique dans un de ses livres pourquoi aujourd'hui il y a des divorces fréquents. Parce que comme l'espérance de vie est plus grande, quoi, vivre tout ce temps avec... Non, quand même. Avant, il n'y avait pas la pénicilline, il n'y avait pas le truc. Bon, Hachem, les problèmes de divorce ne se posaient moins. Parce qu'ils disaient, bon... Une bonne bronchite et on passe à autre chose. Mais maintenant, on a les antibiotiques. Donc, ça pose des problèmes. Mais le problème, c'est quoi? Comment on va s'engager quelqu'un avec quelqu'un d'autre avec l'idée qu'on va partager notre vie ensemble? Il faut être taré, non? Ça veut dire... Il faut avoir confiance que, je dirais... que Dieu intervient dans ce monde. Que Dieu est présent à l'intérieur de ce monde-ci. Que si moi j'ai rencontré cette personne, eh ben c'est pas, je dis pas par superstition. Quand je dis pas par hasard, ça veut dire que je veux vivre cette personne, dire je veux vivre, ça signifie quelque chose avec cette personne. Je veux vivre. Cette personne est importante pour moi et je veux vivre avec cette personne. Ça veut dire que ce que je veux signifie quelque chose. Pourquoi ? Parce que je veux a une signification. C'est ça ce que le texte nous dit. Dire qu'il a cassé les idoles, c'est que du négatif. Dire qu'il a cassé les idoles, ça, c'est encore pas lutter contre l'idolâtrie. Casser les idoles, c'est du négatif. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas idolâtre. Je casse les idoles. Mais me marier, prendre femme, ça veut dire que ce que je veux dans ma vie signifie quelque chose. Moi, je ne suis pas un hasard. J'ai un contact avec le Créateur qui a fait que ma pensée, que mon désir signifie quelque chose. Ça, c'est vraiment ne pas être idolâtre.
Pourquoi ? Ils n'avaient pas le mariage ou le mariage pour tous à l'époque ?
Oui, c'est pas pour le mariage.
Son frère, il prend femme en même temps.
Oui, Nahor a suivi. C'est ce que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Est-ce que ça signifie quelque chose, un mariage civil ? Est-ce qu'un mariage civil, ça existe, vous avez déjà entendu parler, un mariage civil. Est-ce que ça signifie quelque chose ? Un mariage, c'est... J'essaie de décrypter... Moi, je veux vivre. C'est quoi un mariage ? Dans la loi juive. Je veux épouser cette personne et cette personne est d'accord que je l'épouse. Ça veut dire je veux. Je veux. Qu'est-ce que ça veut dire je veux ? Ça veut dire je veux. Qu'est-ce que ma volonté, qu'est-ce que mon désir, ça signifie quelque chose ? Ça, peut-être je veux. Mais c'est peut-être passager. Nous allons voir dans la suite, on va creuser cette notion. On va creuser cette notion dans la suite. Ça, c'est le premier élément. Alors, je reprends ce que dit Joël, que les commentateurs expliquent, en particulier, Rabbi Tzadok HaKohen Rabinovitch explique dans ses drachotes sur le Chumash, dans le prix de Tzadik, que la Torah ne voulait pas commencer par un martyr. Parce que le martyr, en vérité, tu pourrais dire le martyr, c'est une démarche personnelle. On ne peut pas mettre au pinacle, une démarche. C'est une démarche. La démarche d'Avram, c'est sa démarche. Mais toi, fais ta démarche. Si on nous explique, Avram, il a fait cette démarche, ça veut dire, lui, il a fait la démarche, et moi. Donc, la Torah ne va pas développer la démarche d'Avram. La première chose que la Torah nous dit, c'est son acte qui s'est marié. Maintenant, avant d'avancer, j'aimerais tout ce qu'on vient de dire, le rembobiner, essayer de le mettre dans le verset. Rashi, son travail et nous rendre compte du texte. Toute l'histoire d'Aran, du frère Aran, qui est mort dans la fournaise, il le déduit, il est mort alpené à vivre, au visage de son père. Alpené, ça veut dire pas, comment c'est écrit dans la traduction là,
En présence.
La traduction précise, ça veut dire alpené au visage de son père. Est-ce que tout le Midrash rapporté par Rashi, on peut le synthétiser au visage de son père ?
Mais ça va éveiller notre curiosité déjà. Ça va éveiller notre curiosité. Parce qu'on se dit pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un enfant il meurt en présence de son père, on ne le dit pas. Et c'est sûrement arrivé plusieurs fois qu'un enfant meurt dans le vivant de son père.
Donc pourquoi ici, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ça soulève déjà notre... Ça lève une question.
De toute façon, si c'est précisé, c'est important.
Oui, non, mais l'histoire.
Ah, l'histoire, elle n'est pas plutôt explicite, non ?
Alors, moi, je voudrais dire que nous, dans notre vie, on est toujours alpené à venir au visage de notre Père. Toute notre vie, on l'a fait par convenance de ce qu'on a appris. Le Midrash, il dit, rapporté par Rashi, Avram, lui, il a réfléchi par lui-même. Avram a réfléchi par lui-même. On lui dit, Avram, mais ici, le Dieu, c'est le Dieu du feu. Mais lui, il a compris que c'est une puissance importante, le feu. Mais ce n'est pas le fin mot. Moi, je ne vais pas me prosterner au feu. Je ne vais pas donner une puissance particulière au feu. C'est parce qu'il a compris, lui. Comment, parce que tu comprends, tu ne vas pas te soumettre aux règles de la société. Comment, moi, je comprends des choses. Mais ce que je comprends, face à des pressions, je m'écrase. Prenons un exemple. Quelqu'un, il sait que Shabbat, c'est très important dans la vie juive. Quelqu'un, il sait Shabbat, oh, c'est la base de la vie juive. Shabbat, hyper important. C'est la base de la vie juive. Maintenant, tu vas dire à quelqu'un, ok, mais vous savez là, mais monsieur Lévy, vous m'avez fait déjà toutes vos salades là au mois d'octobre avec soi-disant des fêtes, je ne sais pas. Yom Kippour, ouais, c'est connu Kippour, j'ai vu le film Le Grand Pardon avec Roger Hanin, c'était pas mal. Mais vos conneries là, ouais, comment vous dites les kabbats? Qu'est-ce que c'est là? Alors d'abord, au mois d'octobre, vous n'êtes pas venu bosser. Et maintenant, vous commencez à venir bosser, et vous dites à 15h30, ouais, monsieur le patron, je dois rentrer vendredi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Monsieur, c'est pas du tout comme ça que ça marche ici. Ici, on bosse pour histoire de religion. Vous n'êtes même pas musulman. Si vous étiez musulman, je peux comprendre l'islamophobie, je comprends. Mais là, non, ça marche pas. Vos conneries, ça marche pas. Ici, on bosse. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord, vous dégagez. Le mec a dit, ok, pas d'accord, alors je dégage. Pas d'accord, je dégage. Ah, mais il ne fallait pas le prendre comme ça, monsieur Lévy. Non, ça veut dire... Il y a des convenances dans la société. Mais qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas tenir tête à ces convenances? Qu'est-ce qui va faire? C'est ça, le pené à vivre. Aran, il n'avait pas une démarche. Il a dit... Si Abraham s'en sort, je suis avec Abraham. Si Abraham s'en sort pas, je suis avec Nemrod. Ça veut dire, lui, il suit ce qui marche. Il voit qu'Abraham, ça marche, mais il se liquéfie. Il n'a pas de tenue. C'est ça, il est mort dans la fournaise. La fournaise, je dirais, c'est Nemrod, c'est la tour de Babel. C'est la civilisation. Qu'est-ce qui fait que nous, on a une tenue par rapport à le bon docteur Sigmund, il disait par rapport au surmoi, ça veut dire le père. Qu'est-ce qui va faire que moi je tiens par rapport aux nécessités, au principe de nécessité? Qu'est-ce qui va faire que moi je tiens? Aran, il n'a pas tenu par rapport à ça. Il a dit si Abraham s'en sort, il gagne. Moi je suis. Tant que lui, finalement, qu'est-ce qu'il voulait? C'est ce qu'il gagne, ce qui marche.
Mais c'est facile. Nous, on a le film. On le voit a posteriori. On arrive aujourd'hui, on a l'histoire. Mais je me mets à la place d'Aran. On serait certainement plus tous comme Aran.
Évidemment.
Que comme Aran. Mais moi, j'attends de voir. Avant, j'attends de voir ce qui
marche. Si ça marche.
Ben oui.
Ben évidemment.
Et si ça marche, je suis.
Évidemment. Qu'est-ce qui fait Aran? Il ne savait pas si ça marche ou non. Il lui a dit, prosterne-toi au feu, sinon je te jette dedans. Il dit, moi je ne me prosterne pas au feu. Mais il est Michigan. Il a un problème.
C'est lui qui a un problème. Avec tout le respect.
Mais je suis d'accord. Il a un problème. D'où ça vient ce problème? D'où ça vient ce problème? Le problème, c'est-à-dire qu'il prend au sérieux ce qu'il pense. Prendre ce que je pense
est-ce ce que je pense, ce que je comprends, je le prends au sérieux. Même s'il y a des pressions extérieures, je le prends au sérieux. Qu'est-ce qui va faire que ce que je pense, je prends au sérieux? Eh bien, se marier, c'est ça. C'est-à-dire, ce que je vis, c'est important. Ce que je vis, c'est important. D'ailleurs, le mariage, souvent, c'est à l'épreuve de la vie sociale. C'est à l'épreuve de la vie sociale. Quand quelqu'un il est dans la vie sociale, ils sont fiancés, c'est magnifique, c'est mignon, tout est très, 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 très mignon. Mais après, quelle femme elle n'a pas dit? Mais je ne comprends pas. Quand on était fiancés, on passait notre temps à bavarder. Et maintenant, ouais.
Oh, c'est bien. Maintenant,
ça commence, ça termine par des psychodrames, ces études. Non mais, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire qu'après, on est pris dans un engrenage. Que notre existence, qu'est-ce qui va faire que notre existence, elle est sérieuse? Qu'est-ce qui peut donner un poids à la simplicité de notre existence? Un couple, c'est la simplicité de notre existence. C'est la vie simple. Mais la vie simple par rapport aux choses très importantes qui s'appellent les activités qu'on a. Est-ce que la vie simple, elle est importante? C'est ça un mariage. C'est ça un mariage, c'est une vie simple. Qu'est-ce que cette vie simple, elle fait le poids par rapport à la tour de Babel, à la civilisation, aux choses importantes de la société? Ça fait pas de poids. Abraham, il s'est marié. C'est pas seulement il s'est marié un jour. Mon maître à Babylone, il dit la chose suivante. Depuis le début, on dit Abraham monothéiste. Ça, c'est une invention, peut-être des Arabes ou des chrétiens qui ont le monothéisme. Nous, on n'est pas tellement nous les Juifs, on n'est pas tellement des théologiens. Qu'est-ce que ça veut dire monothéiste? Il explique. Depuis le début de la Torah, il y a eu 20 générations. D'Adam à Abraham, il y a 20 générations. La première fois dans le texte de la Torah où on voit un couple qui discute ensemble, c'est Abraham et Sarah. C'est ça notre monothéisme. Un couple qui discute ensemble, ça c'est ça notre monothéisme. Ça veut dire que ce que nous vivons, c'est important. C'est ce qu'on appelle la Shekhina, on dit c'est un couple. S'il y a une parole dans un couple, il y a la présence divine. Ça veut dire que c'est ici que les choses se passent, dans notre existence que les choses se passent. C'est des choses simples. Ça peut être un peu violent. Parce que nous, on est dans la tour de Babel. On est à la tour de Babel. On est complètement dans la tour de Babel. Après, alors les gens, bon, on a les vacances. Les vacances, on va prendre un peu de temps. Mais la question, c'est au quotidien. Est-ce qu'au quotidien, il y a un dialogue? Ce dialogue, c'est ça, se marier. On va essayer de continuer, si vous le voulez bien. Ça, c'est la première étape. On va continuer. Alors, regardez. Abraham et Nahor prirent femme. Donc, je synthétiserai que la première chose que la Torah nous dit d'Abraham, c'est qu'il se marie. C'est ça ce qui s'appelle qu'il y a un Dieu un. Dieu un, c'est pas, ça ne veut pas dire seulement qu'il y a un seul Dieu. Ça veut dire que le Dieu créateur, c'est le même Dieu qui agit à l'intérieur de notre vie, ici, à l'intérieur de la simplicité de notre existence. C'est ça, il s'est marié.
On a l'impression que l'histoire aussi qu'il y a singulier, là, c'est que Nahor, il a fait un peu comme son frère, il a vu Abraham se marier, il a fait pas...
C'est ça. Parce que se marier, par exemple, aujourd'hui, les Parisiens,
Ouais. Viens voir les Parisiens. Ouais. Nous, les Parisiens. Un Parisien normal. Normal. Il se marie à 35 ans. Ouais. Des bonjours, ça veut dire. Parce que, bon, il faut déjà qu'il ait son diplôme, qu'il s'installe, qu'il ait son truc, son machin, qu'il puisse assurer un certain standing, machin, bidule. Alors, oh, 35 ans, et encore, je suis optimiste, hein, c'est 35 ans, je vous la fais pour pas exagérer. Mais c'est ça veut dire... Et c'est un pari, ça veut dire, c'est un certain pari, ça veut dire, c'est un acte d'engagement. Comment je peux m'engager? Comment je peux m'engager? Qui je suis pour m'engager? Si je m'engage, ça veut dire que j'existe. Exister, ça veut dire que ce que je suis, dans ma simplicité, ça signifie quelque chose. Ça, c'est une innovation incroyable. Si on pourrait dire, ouais, bref, on est là, ouais, on profite de la vie, mais est-ce que moi, j'existe? C'est ça le problème. C'est ça ce qu'Abraham nous enseigne ici. Continuons. Alors, Nahor a épousé Milka, fille de Haran, et Haran, c'est le père de Milka, Haran, père de Milka et de Iska. Alors, c'est qui Iska? Iska, nulle part ailleurs dans la Torah, on parle de Iska. Qui c'est Iska? Rashi nous dit, Iska, c'est Sarah.
Il épouse sa nièce, alors.
Il épouse sa nièce. Ouais, il épouse sa nièce. Alors, pourquoi maintenant elle est appelée Iska? Alors, dans l'édition que j'ai mal fait la photocopie, je suis désolé. J'ai voulu économiser du papier, enfin voilà. Je vous lis Rashi, hein, dans l'édition que j'ai. Iska, c'est Sarah, chez Sora Beruah Hakodesh. Parce que Iska, c'est le même mot que Souka. Souka, c'est le toit de la cabane à Sukkot. Iska, ça veut dire Sora Beruah Hakodesh. Sora Beruah Hakodesh. Sarah, elle a un regard prophétique qui surplombe les choses. Cette femme, elle a un regard qui voit loin. Socha Beruah Hakodesh. Autre explication d'Irachi. Akol Sochim Beyofia, tout le monde tourne son regard vers elle tellement elle est belle. Les commentateurs expliquent qu'on voit tout le temps que Sarah, elle est hyper belle. C'est la hyper belle meuf, quoi, en un mot. Alors, pourquoi la Torah, elle nous fait toujours l'apanage comme ça? Elle dit toujours, elles sont super belles, Sarah hyper belle, Rivka hyper belle, Rachel laisse tomber. Qu'est-ce que c'est toutes ces conneries? Je veux dire, c'est quoi ça? Pourquoi?
On ne dit pas des hommes.
Comment?
On ne dit pas des hommes.
On ne dit pas des hommes. Si, de temps en temps, si, de temps en temps, qui on va dire
Yosef,
évidemment, Yosef. Ouais. Alors, pourquoi on nous dit qu'elles sont elles sont canons comme ça? Pourquoi? Il me semble que Rashi explique que dans notre tradition, la beauté est l'expression d'une dimension intérieure spirituelle. La beauté n'est pas quelque chose de superficiel dans notre tradition. C'est ce qu'on voit ici. Rachid donne... je suis désolé, hein, j'aurais dû faire plus attentivement la photocopie, mais il explique que Iska, ça a deux sens. Iska, ça a deux sens. Socha berua kodesh, iska. Samus, eska, ça veut dire surplomber. Qu'elle a une vision prophétique. Elle est prophétesse. Qu'est-ce que ça veut dire prophétesse? Que elle a une intuition prophétique. Elle voit loin. Elle a une intelligence sublime. Qu'est-ce que ça veut dire iska? Elle a une intelligence sublime. Deuxième explication, surplombée, que quand elle passe, les gens ils font comme ça. Le regard surplombe vers elle. Il me semble que c'est les deux explications nous expliquent le phénomène. Que la beauté, c'est l'expression d'une intelligence. Le Maharal de Prague développe beaucoup cela, que la beauté, c'est un éclat. La beauté, ce n'est pas seulement la finesse des traits ou l'harmonie des traits. C'est aussi, mais l'éclat de la neshama, l'éclat de l'âme, s'exprime par un éclat qui s'exprime à l'intérieur du corps. Donc la beauté est quelque chose de très, très, très important dans notre tradition. Ce n'est pas, c'est des choses superficielles. Il n'y a pas des choses superficielles, des choses qui ne sont pas superficielles. C'est la vie. C'est des choses de la vie. La beauté, c'est quelque chose de très important. On va continuer.
Il y a toujours la beauté intérieure.
Non.
Pas forcément.
Non. La beauté intérieure s'exprime à l'extérieur. Le Maharal, qui est un kabbaliste. Les kabbalistes ne font pas de différence entre les choses de la vie quotidienne et les choses importantes. Les choses importantes sont dans la vie quotidienne. Le Maharal développe pourquoi les enfants, souvent les enfants ont une beauté stupéfiante. Mon beau-père, Alav Shalom, il disait, comment ça se fait, les enfants sont tellement beaux et après ils deviennent tellement moches. Mais il me semble l'explication est la suivante. C'est les enfants, c'est des âmes qui arrivent dans ce monde-ci. C'est l'expression de la neshama, c'est l'expression de l'âme. C'est l'expression du vivant qui s'exprime. Et là, ce vivant qui s'exprime, il n'y a que de la beauté. Maintenant, après, il va au CP. Assieds-toi, sors ton cahier. Tu as fait des tâches sur ton cahier. Un avertissement à tes parents. Ouais. Tu peux me passer le numéro de téléphone de tes parents, j'ai quelque chose à dire parce que tu as été dissipé. Ouais. 2 jours d'avertissement, machin. Bon, après, les gosses, ils sont cassés, ils deviennent moches, évidemment. Évidemment, je veux dire, c'est le vivant, il y a des chamans, il est arrivé. Elle est arrivée dans ce monde-ci, elle est contente, il est tout. Mais à un moment, tu lui as dit, t'es pas très bien reçu dans ce monde-ci. C'est comme les migrants, tu vois. Les migrants, ils sont contents, ils arrivent ici, ils sont tout contents. On a dit, ouais, mais ok, bon, vous allez là-bas, dans un camp, dans un truc. Nous aussi, on est des migrants. On vient d'un monde supérieur, on arrive dans ce monde-ci. On dit, bon, comment tu veux qu'on travaille si t'as pas amené tes affaires dans ton cartable? Le gosse, il arrive à la maison. Maman, j'ai pas compris. Le moré, il m'a grondé. J'ai pas compris pourquoi. Alors, c'est une fois, ça va. Mais quand c'est 50 fois, après, on devient moche. C'est sûr. Mais la beauté est l'expression du vivant de la neshama. Bon, on va continuer. Mais ce qui est, c'est important, comme on va voir plus tard, la dimension du dialogue qu'il y a entre Avraham et Sarah. Parce qu'Avraham, il a besoin d'apprendre de ça. On continue. Mais c'est bien commencé. Mais là, ça commence des problèmes. Vateyi Sarai Akara. Vous avez les feuilles d'après? Oui. Vateyi Sarai Akara. Ella Valad. Ça commençait bien, mais elle était hyper belle, mais il y a un problème. Sarah est stérile, elle n'a pas d'enfant. Dites-moi entre parenthèses, si on dit qu'elle est stérile, elle n'a pas d'enfant, l'auteur, je trouve, un moins, moins un. Ça veut dire, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. On a compris. Oui, pas mal, je cherchais le mot. Ou alors une tautologie. Non, ça veut dire, si elle est stérile, évidemment, elle n'a pas d'enfant. Alors, les Chachamim nous disent que même, ça veut dire, dans la stérilité, il y a plusieurs facteurs. Mes parents, grâce à Dieu, vivent toujours, mais mon père, quand il était actif, il était gynécologue, obstétricien. J'ai beaucoup. Donc, un gynéco, ça fait partie de son boulot, la stérilité. Il m'a beaucoup parlé que la stérilité féminine, particulièrement, n'est pas. C'est pas dans. Comment on appelle congénital. C'est pas organique. C'est rare que ça soit organique. C'est très rare que ça soit organique. Mais la Torah nous dit, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Elle ne pouvait pas organiquement avoir d'enfant. C'est pour ça que la Torah nous dit, elle est stérile. Sur d'autres matriarches, on dira, Rivka, elle est stérile. Rachel, elle est stérile. Chana, elle est stérile. Mais là, c'était pas organique. Mais là, quand on nous parle ici de Sarah, elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas avoir. C'est organique. Ce qui est très très important dans la suite, quand après Sarah aura un enfant, c'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas du tout possible. Non possible. Impossible. Donc l'histoire commence pas terrible, hein, parce que Avram a été jeté dans la fournaise, son frère il est mort, il se marie Mazel Tov, mais bon, elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, oula, Abror. Verset suivant. Vaïkar Terar est Avram Beno, Vet Lot Ben Aran Ben Beno, Vet Sarai Kalato Eshet Avram Beno, Vayetsu Ita Meur Kazdim La Leret Artsa Kenaan. Vayabou ad Haran, vayeshfusham. Terar, alors c'est incroyable parce que, après tout, finalement, Terar, c'est quand même dans l'histoire un salaud. Mais on voit qu'il a gardé des bonnes relations avec son fils. Il prend son fils, quand même. C'est bizarre. D'un côté, il est prêt à dénoncer son fils à Staline. Parce que Nemrod, c'était pas un petit mignon, hein. Et après, il prend son fils, chéri. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment réalisé. On voit, il y a un hiatus là-dedans. Il prend Terar, Avram, son fils, Lot, le fils d'Aran, son petit-fils, Sarai, sa bru, la femme d'Avram, son fils. Ils partirent ensemble de Ur, en Chaldée, pour aller vers la terre de Canaan. Voilà. Donc, on va faire une carte succincte du Moyen-Orient. Vous ne m'en voudrez pas si elle n'est pas terrible.
Mais pourquoi ils vont à Canaan?
Oui, oui, c'est la question, tout à fait. Donc là, l'Arabie saoudite, hein, je ne sais pas. Oui, le Sinaï. Oui, ok, bien. Là, t'as le Tigre et l'Euphrate, bien, là machin, là t'as Bagdad, Ur, c'est là, et là tu as en Syrie, tu as Haran. Haran, et là tu as la terre de Canaan. Donc ils sont là, là c'est la Jordanie, c'est désertique, ils partent ensemble de Ur, pour aller dans la terre de Canaan.
Pourquoi la terre de Canaan? Pourquoi il va aller dans la terre de Canaan?
Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de choses comme ça.
Il n'y avait pas l'agent juif?
Non.
Il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas Bibi Nathaniel. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi la terre de Canaan?
C'est Hachem qui lui demande.
Comment ?
C'est Hachem qui lui demande d'aller là-bas.
Non, c'est après. Ah. C'est après qu'il peut...
Où Hachem ? On n'a pas vu Dieu pour le moment, là. Où il est, Dieu ? C'est pour ça qu'on part du texte. Parce que pour le moment... Quoi ?
Non, on voit parfois le Midrash ou Rashi, il connaît plein de choses. Donc, il y a quelque chose dessus ou pas ?
Là, ce que tu as écrit, c'est Haran.
Haran, Haran.
Parce que là, il dit...
Haran, comme ça.
En fait, il fait des tours.
Il dit qu'il se fixe à...
Alors, nous... Alors, une seconde. Si on veut bien voir les détails, on voit que Haran est mort dans sa terre natale à Ur. Haran, il est mort là. Et quand, dans quelques versets, Dieu va intervenir, il va intervenir, Kazakh clair, là, ouais, il arrive, chips, il va dire à Abraham, pars de ta terre natale. Donc Narmanin apprend qu'en vérité, à l'origine, la famille venait de Haran, et ils sont allés à Ur, parce que c'était la grande métropole. Mais à l'origine, ils sont de Haran. Donc, ils vont, ils partent, mais pour aller dans la terre de Canaan. Alors, Narmanide explique que la terre de Canaan était connue comme étant la terre de la prophétie. C'est la terre, on a parlé de ça la semaine dernière, pour ceux, les happy few qui ont eu la chance, un signe, voilà la semaine dernière, que la spécificité de la terre de Canaan est une terre où il peut potentiellement avoir un lien plus direct avec le Créateur. Donc ils partent pour aller dans la terre de Canaan.
Mais on est avec des gens qui, à l'époque... Il avait quelle notion de Dieu, de croyance, on l'a vu tout à l'heure, il croyait au feu du Dieu, au feu du feu.
Ouais.
Dieu. Il y a cette notion de prophétie, comment il l'avait ancrée en eux.
On voit que Terach, ça l'a secoué cette histoire. Ça l'a secoué, perdre son fils dans cette histoire, ça l'a secoué. Donc ils partent pour aller dans la terre de Canaan. Narmanide, c'est le seul que j'ai vu qui parle de ça, il dit parce qu'ils savent que la terre de Canaan a une dimension spirituelle particulière. Regardez le verset suivant.
Mais donc en fait, quand même, Terach, il anticipe ce que va dire Dieu plus tard à son fils.
Ah, alors regardez la suite. Ils partent ensemble de Ur en Chaldée pour aller vers la terre de Canaan. Ils arrivent à Haran, mais s'y installent. C'est-à-dire en chemin.
Ils ont changé d'avis.
Comment ?
Ils ont changé
d'avis. Ben, en chemin. Parce que là, on ne peut pas aller directement. On ne peut pas aller de Mésopotamie directement dans la terre de Canaan. Il y a des déserts, ce n'est pas possible. Il faut passer par le haut pays de l'Euphrate. L'Euphrate, les sources vers les sources de l'Euphrate et bifurquer par là. Et en passage, ils s'installent là. Si vous voulez, je sais pas, c'est je vous donne un exemple. Beaucoup de gens comme nous, nos parents ou grands-parents ont fait la même chose. Je vous donne un exemple. Mes grands-parents paternels, quand ils sont partis de Pologne, ils voulaient aller en Israël. Dans les années 1920, ils s'entendent, hein, 1930. Ils voulaient aller en Israël, en Palestine. Et mon grand-père avait un frère qui avait fait des études en France. Et avant d'aller en Palestine, à l'époque ça s'appelait la Palestine, avant d'aller en Israël, ils se sont dit, ils vont se faire un peu d'argent en France, et après ils iront. Et ils sont restés. Il y en a plein comme ça. Hein ? C'est classique, c'est un plan juif classique.
Comme ceux qui sont arrivés en Égypte, parce qu'ils n'arrivaient pas, avant 48, qui n'arrivaient pas à rentrer en Palestine, et qui se retrouvaient bloqués en Égypte, et qui sont restés.
Ils sont restés en Égypte, voilà. Donc il y en a beaucoup, ils sont sur mes beaux-parents, ils sont partis de Hongrie après la Seconde Guerre mondiale, ils voulaient aller en Israël, et finalement, ils sont allés au Maroc. mais il y en a plein comme ça. Ils voulaient aller, et finalement, ils ont fait autre chose. Là, c'est la même chose. Ils veulent aller dans la terre de Canaan, et puis ils sont arrêtés à Haran. Voilà. Regardez le verset suivant. Vayu yeme Terar, Ramesh Shanim Umataim Shana. Terar vécut 205 ans. Vayamot Terar Becharan. Terar mourut à Haran. Verset suivant, vous avez le texte, c'est bon, le premier verset du chapitre 12. Vayomer Hashem el Avram, l'er lecha mi artzecha mi molatecha mi bet avira el haaretz asher areka. Et là, votre prénom, excusez-moi,
Ora.
Ora a dit, mais Dieu, peut-être, il avait dit quelque chose. Il n'avait rien dit pour le moment. Là, c'est maintenant qu'il arrive. Abraham et sa famille se trouvent à Haran, et Dieu parle à Abraham. Le Midrash dit, qu'est-ce qu'il fait là, Dieu ? Qu'est-ce que tout d'un coup il fait là ? C'est que Abraham a tellement recherché par lui-même, le Midrash dit, le monde pour lui, c'était comme un palais allumé. Un palais, tu sais, un magnifique palais de marbre avec des candélabres allumés. Et il se promène dans le palais, des pièces et encore des pièces, des colonnades, des verreries, des galeries des glaces. Il dit, mais il doit bien y avoir un propriétaire ici. Il cherche le propriétaire. Mais où est le propriétaire ? C'est tout allumé. Les candélabres sont allumés. Mais il doit bien avoir un propriétaire. Un moment, le propriétaire le tape sur l'épaule et dit, « Salut, c'est moi le propriétaire. » Et bien, c'est ça le verset. Abraham, il a tellement cherché un monde, tellement incroyable, tellement magnifique, tellement stupéfiant. Mais il dit, « Mais, il y a bien quelque chose, il y a bien quelqu'un. » Vayomer Hashem el Avram. Hashem dit, salut, comment tu vas ? On peut taper la discute ? Et Dieu, il parle avec Abraham. Vayomer Avram, Hashem el Avram. Donc, ils se sont installés entre-temps à Haran. Dieu dit à Abraham, « L'er lecha me artsecha mi molatecha me bet avira el haaretz asher areka. » Va pour toi de ta terre, de ta patrie. Narmani d'Abraham, donc la patrie d'Abraham, c'est pas Ur, c'est Haran. Va pour toi de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Vesera le goy gadol, va varerecha, va galla shemecha, va yebracha. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je grandirai ton nom et tu seras bénédiction. Va varecha me varerecha me kalelecha aor, fenivrechu vecha kol mishperot adama. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Et se béniront en toi, ou se grefferont en toi toutes les familles de la terre. C'est-à-dire toutes les familles de la terre tireront leur bénédiction de toi. Ok. Bon, il y a beaucoup de choses, évidemment, à analyser, mais je veux arriver à un point précis. Verset suivant. Vayeler Avram, kasher diber elav Hashem. Avram alla, comme Dieu lui a parlé, etc. Regardez le verset suivant, parce que, bon, c'est long. Le verset 5. Alors, il faut simplement demander le programme. Le verset « Hé ». C'est bon, vous avez le texte ? Vaïkar, verset E, 5, verset E. Vaïkar Avram et Sarah Ishto, vet Lot ben Achiv, vet Kol Rechusham et Sher Achashu, vet Anefesh Asher Asu Becharan. Abraham prit Sarah et sa femme, Lot, son neveu, toutes les richesses qu'ils avaient acquises, les âmes qu'ils avaient faites à Haran, les disciples qu'ils avaient faits à Haran, ils partirent pour aller vers la terre de Canaan, et ils arrivèrent dans la terre de Canaan. Question de Narmanide. Dieu ne lui a pas dit d'aller dans la terre de Canaan. Regardez le verset 1. Vayomer Hashem el Avram ler lecha me'atzecha mimolatera mibetavira laretz asher areka. Dieu dit à Abraham, va pour toi de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Va vers la terre que je te montrerai. Il n'a pas dit quelle terre. Abraham, il dit, ok boss. Il prend sa femme, son disciple principal, le fils de son défunt frère, Lot, leur disciple, parce que Abraham et Sarah avaient des disciples, et ils partirent ensemble pour aller vers la terre de Canaan.
On sait combien ils étaient, en fait, du
tout. En tout cas, pourquoi ils vont à la terre de Canaan? Nous avons dit avant qu'ils voulaient aller à la terre de Canaan, mais Dieu lui a dit, va vers la terre que je te montrerai. Pourquoi il va à la terre de Canaan?
Là-bas, ce sera que là-bas que je pourrai comprendre où aller.
Oui, c'est déjà
oui,
je vais t'indiquer le pays, mais ce sera que là-bas qu'il pourra recevoir ce message-là et le comprendre, le dire, n'allez quelque part.
D'accord, mais il n'a pas eu le mode d'emploi. Non, Dieu ne lui a pas envoyé le mode d'emploi. Ça, c'est ce qu'il a pensé. C'est juste ce que tu dis, c'est très juste. Mais Dieu ne lui a pas donné le mode d'emploi. Dieu a dit, va vers la terre que je te montrerai. Moi, ce que j'aurais fait, Vous connaissez le vieux campeur à Paris? Tu connais le vieux campeur? Tu connais le vieux campeur?
C'est 10 magasins.
Ouais, c'est super. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais Areka. J'aurais dit, la valeur numérique, c'est 222. Ça, c'est 220. Je serais allé au vieux campeur, j'aurais demandé la carte Michelin 222, s'il vous plaît. Valeur numérique, qu'est-ce que la terre que je te montrerai, valeur numérique 222. Va vers la terre que je te montrerai. Dieu ne lui a pas dit laquelle. À toi, tu dis. Mais Abraham, au départ, il avait l'idée à l'ère de la terre de Canaan. Narmanide explique, la terre de Canaan, ce n'était pas gratuit. C'est que c'est une terre qui soit plus propice à sa démarche. Bon, en chemin, ils se sont arrêtés. Mais Dieu lui dit, ben, la terre que je te montrerai. Il avait pensé ça, Abraham. Mais Dieu lui parle. Jusqu'à maintenant, Dieu ne lui a pas parlé. Est-ce que... Vous avez un truc comme ça ? Ouais. Alors, maintenant, imaginons qu'il y a des gens qui m'appellent, par exemple, là-dessus. C'est fait pour, d'ailleurs. Hein? Okay. Maintenant, imaginons, il y a Dieu qui m'appelle. Excusez-moi, c'est Dieu. Non, Dieu, c'est un mot. C'est-à-dire, c'est le créateur. C'est pas seulement le créateur. Depuis Noé, Dieu, il était au chômage. Ça fait 10 générations qu'il n'y a pas eu de réseau. Là, le réseau, par exemple, nous, ça fait 2000 ans, 2300 ans qu'il n'y a plus de réseau avec Dieu direct. On est
en réseau et indirect, par l'étude de la Torah, par la prière. On a un réseau un peu en sous-régime, si vous voulez. Mais que Dieu qui parle, comme dit le verset dit, Dieu parle à Abraham, « Vayomer Hashem el Abraham ». Dieu parle, mais Dieu, c'est un mot. C'est un mot. Sur ton portable, il y a le Créateur. Ça fait 2000 ans qu'il a parlé à personne. Il t'appelle, Arthur. Va pour toi, car la terre que je te montrerai. Et tu seras béni. Alors, tu seras béni. Please, vous pouvez m'en dire plus. C'est fini. La terre que je te montrerai.
Qu'est-ce qu'il a voulu dire?
La terre que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? La terre que je te montrerai.
La terre que je te montrerai. Qu'est-ce que ça peut bien être?
Abraham ne se démonte pas. Il a réfléchi par lui-même. Il dit, bon, je continue mon chemin. Que j'ai pensé au départ. Ça, c'est Abraham. Dieu lui parle, il ne se désosse pas pour autant. C'est fou. C'est incroyable. C'est impossible d'imaginer. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, c'est écrit, je ne sais pas, dans le Coran, qu'il faut tuer tous les mécréants, par exemple. Les mecs, ils le font. Mais c'est pas parce que c'est écrit que tu vas le faire. Abraham, il a inventé un truc. Que Dieu parle. Mais je suis un interlocuteur de Dieu. J'existe avec Dieu. Ce que, même si ça, en vérité, quand on a vu la première partie de notre étude, quand on a dit qu'il se marie, ça veut dire qu'on n'est pas idolâtre, ça veut dire que mon existence a un sens, ma pensée a un sens, mon existence a un sens. Ce que moi je pense, ce n'est pas gratuit. Maïmonide explique que celui qui ne fait pas attention à la gloire de son... La Mishnah dit, celui qui ne fait pas attention à la gloire de son Créateur, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas venu au monde. Ça, c'est la Mishnah, dans le traité Chagiga. Maïmonide explique, c'est quoi faire attention à la gloire de son Créateur? C'est prendre au sérieux ce qu'on pense et ce qu'on réfléchit. C'est quoi la gloire de son Créateur? C'est ce qu'on pense intimement. Qu'on réfléchit intimement. Mon épouse, elle dit souvent, comme ça, qu'on ne doit pas banaliser ses intuitions. Souvent, il y a des choses dans la vie que on sent quelque chose. Mais bon, on est les seuls à sentir ça, on est tout seul à sentir ça, c'est des bons, c'est des conneries. Mais non, ce que tu ressens, c'est plus important. Ce que tu ressens intimement, même si tu es le seul à le sentir, c'est toi. Et toi, tu existes. Dieu lui parle, mais ce qu'il a pensé n'est pas démoli. Il va introduire sa présence, son existence dans sa relation avec Dieu. Il n'est pas... Dieu lui parle, il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas laminé parce que Dieu lui parle. Ça, c'est l'innovation d'Abraham. J'ai voulu appeler cette étude la révolution abrahamique. Ça, c'est la révolution abrahamique. C'est pour ça que nous, le peuple d'Israël, la base de notre tradition, c'est l'étude. L'étude, c'est qu'on participe de notre tradition. On n'est pas passif par rapport à nos traditions. On ne dit pas, c'est écrit. J'ai lu dans Actu J que... Actu J, on peut comprendre comme ci, on peut comprendre comme ça. Il y a des débats, on peut comprendre comme ça. On peut...
cet après-midi, avec mes élèves, tous les jours, on étudie le traité Yoma. Traité Yoma, c'est le service du temps à Yom Kippour. C'est écrit, je vous donne un exemple. C'est écrit que le Kohen Gadol prendra deux pleines poignées d'encens qu'il mettra à l'intérieur du Saint des Saints à Yom Kippour. Il prendra deux pleines Melochofnav Ketoret, deux pleines poignées d'encens qu'il mettra à l'intérieur du Saint des Saints. Il y a un maître dans le Talmud qui dit, mais il prendra deux pleines poignées d'encens. Mais l'essentiel peut-être, c'est pas qu'il prenne, c'est qu'il ait le plein poignet. Peut-être si quelqu'un met dans la main du Cohen, du grand prêtre, de l'encens, de manière à ce qu'il ait deux pleines poignées, c'est bon aussi. Pas besoin qu'il prenne. L'image que tu as normalement, il y a un tas d'encens, de poudre d'encens. Tu as le Cohen Gadol qui arrive, ayant qui pour le grand prêtre. Il prend ses mains. C'est beau. Il rentre dans le Saint des Saints. Magnifique. Mais dis, mais peut-être c'est pas obligé qu'il prenne. Il faut qu'il ait deux pleines poignées. Peut-être quelqu'un lui met dans la main. Non, ça veut dire, tu lis le verset comme ça, qu'après eux, tu comprends qu'il met. Mais il dit, mais c'est pas prouvé. Peut-être que. Non. Ça veut dire, c'est pas parce que le verset dit. D'abord, qu'est-ce qu'il dit le verset ? Dieu, il a dit ça. La terre que je te montrerai. Il m'a pas expliqué. Alors, c'est à moi de chercher, qu'est-ce qu'il veut dire ? S'il m'a pas expliqué, moi, je comprends que c'est ça, alors j'y vais. C'est ce qu'il vend. Il vend la terre de Canaan. Il pense que c'est. Mais il faut savoir. Dieu, explique-moi. Ah, toi, tu comprends ça? Donc, ma compréhension participe de la parole de Dieu. Ça, c'est l'invention abrahamique. C'est une révolution.
Il aurait pu prendre une autre terre, peut-être qu'il aurait validé.
Peut-être. L'Ouganda, par exemple. Ou Brooklyn. Mais. C'est-à-dire que Dieu lui parle. Mais c'est un respect de Dieu, justement, d'exister par rapport à Dieu. Pas d'être absent par rapport à Dieu. En général, l'idée qu'on a, c'est quand il y a Dieu, il n'y a que Dieu. Ici, c'est le contraire. Si Dieu parle, c'est qu'il il attend un interlocuteur. Donc, exister est une gloire de Dieu. Participe de cette parole. Ça, c'est la révolution abrahamique. Premier élément de la révolution abrahamique. Que ce monde existe, que nous existons, c'est la gloire de Dieu. C'est ce que Maïmonide dit, que ma compréhension, ma pensée est la gloire de Dieu. C'est pas... Parce que les gens pensent, instinctivement, on penserait la religion, heureux les pauvres d'esprit, si vous voulez, heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux est pour eux. Hein, vous avez déjà entendu ça quelque part. On pense que s'il y a Dieu, c'est la foi qui sauve, que sais-je. On est dans cette culture, instinctivement. Abraham, c'est un autre univers. Si c'est la gloire de Dieu que j'existe, que je pense et que je réfléchisse. Abraham, il réfléchit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? A priori, moi j'ai pensé ça, donc c'est pas contradictoire, donc je vais tester qu'est-ce que Dieu veut. Je vais aller dans la terre de Canaan. Et Dieu dit, c'est bon copain, c'est bon. On s'est compris. Voilà. Ça, c'est première étape. Bezrat Hashem, on verra encore d'autres innovations. Je pense que c'est très important parce que on est dans une génération où le phénomène religieux est revenu de manière étonnante. Une grande partie du XXe siècle avait enterré le phénomène religieux en Occident. Depuis Nietzsche, il disait « Dieu est mort ». Mais là, avec l'écroulement de l'Empire soviétique, tout d'un coup, il y a eu sur la planète un éveil de religiosité. On ne pouvait pas imaginer qu'il y a un retour du phénomène religieux énorme. Étudier ces textes sont vitaux pour nous. C'est vital, carrément, c'est vital. C'est pour ça, même si j'ai déjà... Tous les ans, on voit ces passages. Mais ces passages sont... Si on ne les étudie pas, je pense qu'on on tient pas le choc. On tient pas le choc. On est trop dans le phénomène religieux. Religieux en tant que c'est, il n'y a que Dieu. Exister, réfléchir, participe de la gloire de Dieu. Participe de la gloire. Et ça, c'est ça notre tradition. Ça, c'est la tradition vivante. C'est la tradition talmudique. Voilà, suite au prochain numéro. Bon, pour faire sympa, il y a un petit bouffe, les enfants. Hein. Ne vous gênez pas.